Il arrive d'un long voyage sur la ligne 6. Ça devait être assez chaud à l'intérieur.
Quel aventurier.
Oui, ça n'a pas trop ramolli votre cerveau, Thibaut de Saint-Maurice?
J'espère pas.
Parce que moi, la canicule a un effet sur mon cerveau absolument désastreux. Alors ce matin, vous nous faites voyager en compagnie de trois philosophes. Je vous écoute. On vous écoute.
Eh ben oui, Ali. En fait, je me disais qu'on imagine parfois que les philosophes sont encore des êtres immobiles, vous savez, qui passent leur vie à lire, à écrire, à enseigner, bien loin des aventures du voyage. Et pourtant, ce matin, je voulais vous proposer de suivre trois philosophes grands voyageurs qui vont, je crois, nous apprendre chacun à leur manière ce que le voyage peut changer dans nos vies et peut-être nous donner des petits conseils ou des petits trucs et astuces pour voyager différemment.
Et on part d'abord à Syracuse.
Oui, avec Platon, il y a 2500 ans, qui à la fin de sa vie, alors Platon il a beaucoup voyagé, hein, en Égypte, en Anatolie, etc. Mais à la fin de sa vie, il fait trois voyages, coup sur coup, on va dire, à Syracuse, en Sicile. Et pourquoi va-t-il à Syracuse, en Sicile? Eh bien, pour essayer de mettre en place le gouvernement idéal, celui qu'il avait théorisé dans son livre La République. Il s'est dit, voilà, on va essayer d'appliquer la théorie à Syracuse avec le tyran Denis. C'est une sorte de déplacement professionnel de Platon, dont le but, donc, est de passer de la théorie à la pratique et surtout de faire une sorte d'épreuve de vérité de sa propre philosophie. Alors à chaque fois, les trois voyages, ça se passe très très mal. Même à la fin du premier voyage, Platon est vendu comme esclave et il ne doit qu'un hasard d'être racheté et de pouvoir revenir à Athènes et d'y fonder son école de philosophie. Et donc en fait, ces trois voyages sont trois échecs de l'application de la philosophie de Platon dans cette réalité politique de la ville de Syracuse. Ce que je crois que ça nous apprend, c'est que, on l'a un peu dit, partir en voyage, c'est toujours imprévisible. Ça peut être un échec, ça peut être plein de dangers, on peut se perdre et on peut finalement ne pas réussir à atteindre ce pourquoi on était parti.
Arpentons d'autres chemins philosophiques ailleurs en Europe?
Oui, avec Descartes cette fois-ci. Alors Descartes, c'est fascinant, on a l'impression qu'il n'a pas de chez lui, qu'il n'a pas de maison. Il est toujours en train de voyager, d'abord parce qu'il a été soldat et ensuite parce qu'il n'a cessé de bouger en France, en Hollande, en Suède. Descartes, c'est un homme qui vient passer des séjours et c'est un homme qui est toujours en chemin. Il passe des séjours de quelques mois entre deux voyages sur des chemins et justement, avec Descartes, on n'est jamais perdu parce que là, on est toujours sur un chemin. Et évidemment, en grec, chemin... Souvenez-vous, Ali, ça se dit méthodos. Et Descartes, son fameux discours de la méthode, c'est un expert de la méthode, un expert des chemins. Pour ne pas se perdre dans un voyage comme dans ses pensées, le conseil de Descartes est assez simple. Il faut rester sur un chemin, s'y tenir, et forcément, il nous mènera quelque part. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir des sentiers battus ou qu'il ne faut jamais partir à l'aventure. Ça veut dire au contraire que explorer, voyager, c'est inventer un nouveau chemin et aller au bout. Pas de voyage sans chemin, pas de découverte sans méthode. Et quand on voyage comme Descartes, on ne flâne pas, on ne se laisse pas porter au hasard des rencontres ou des couleurs dans les vitrines des marchands de souvenirs, mais on avance résolument.
Et on finit par le bord de mer, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, en Italie, à Sorrente, c'est magnifique, au sud de Naples. Et cette fois, on part avec Nietzsche. On est en 1876, Nietzsche est épuisé, il a trop travaillé et en plus, il a des migraines absolument épouvantables. Et donc, il part pour plusieurs mois à Sorrente, dans une très belle villa, à l'invitation d'une amie. Et Nietzsche raconte ça, c'est absolument fascinant. En quelques jours, il passe du nord, donc de l'Allemagne, au sud. Et il découvre le soleil, les grandes promenades dans la montagne. Et puis surtout le choc du bleu métallique de la Méditerranée sous le soleil. C'est un véritable tournant dans sa pensée. Et il découvre, comme il le dit, qu'il a assez d'esprit pour le sud. Comme si le sud demandait d'avoir davantage d'esprit. C'est le tournant dans sa philosophie de ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit libre. Il est capable de supporter tout ce soleil, toute la puissance de ces montagnes qui plongent dans la mer. Il a toujours mal à la tête, ça, les migraines ne passent pas, mais ça lui ouvre des horizons. Avec Nietzsche, on comprend que le voyage, bien sûr, nous fait voir le monde autrement et donc qu'il va nous changer et que la rencontre avec des paysages nouveaux, elle peut être aussi importante que la rencontre avec des gens nouveaux. Et bref, que le voyage est avant tout une ouverture au possible et que l'on sait que l'on a fait un beau voyage, non pas quand, vous savez, on dit qu'on a fait telle ville ou qu'on a fait tel monument, mais quand on peut lire en soi les petites lignes de changement qui ont été provoquées par le voyage. Voilà, au fond, on peut partir très loin et en fait ne jamais voyager, parce que évidemment il suffit pas de partir, hein. Il faut aussi s'étonner, questionner, découvrir, bref, faut philosopher.